J'en ai fait un certain nombre des voyages du pape, mais celui-ci est tout à fait original, décoiffant, dans la mesure où il y a eu cette initiative de paix imprévue, en tout cas préparée secrètement, je pense, mais imprévue dans le programme, qui apporte comme un souffle nouveau sur la scène internationale, remet en quelque sorte le Saint-Siège, le Vatican, l'Église catholique sur l'échiquier géopolitique, et ce qui fait que ce voyage, outre évidemment la personnalité du pape François, est tout à fait nouveau, je pense, même inaugure d'une certaine manière la portée du pontificat.
Ce voyage ne devait pas être politique, il l'est devenu, mais de très belle manière.
Oui, mais ça, c'est le côté un peu fourbe du pape, comme il dit, c'est-à-dire je suis un peu assez malin, et il nous avait effectivement dit cela sera strictement religieux, ça a été strictement politique et religieux, ou religieux et politique, et ici tout est mélangé. Mais ce qui est extraordinaire à noter, c'est la façon dont ce pape aborde ces sujets. Je crois qu'effectivement, il tend beaucoup de mains, il sourit, il est aussi très déterminé. C'est un homme têtu qui voit un objectif, en l'occurrence la paix, et donc il marche, il avance, envers et contre tout, envers et contre tous, pour faire bouger des lignes, changer des habitudes, aider les gens à voir peut-être les problèmes d'une autre façon. Et là, cette méthode, qui est une méthode très humaine, au fond, quand il dit au président israélien et au président palestinien, venez à la maison, enfin c'est ça, venez à la maison, c'est tout juste, il leur dit pas, on va faire une pasta et puis on va discuter un peu de tout ça et puis on va prier chacun dans, j'imagine, dans sa religion. C'est ça, c'est quelqu'un qui parle au cœur, parle à l'homme, mais d'une manière tellement simple, tellement directe qu'il fait mouche.
La simplicité qui finalement est désarmante.
Oui, la simplicité qui est désarmante ici, on peut quand même se poser des questions puisque les Palestiniens et les Israéliens viennent d'échouer après une reprise de négociations sous l'égide des États-Unis. Donc on peut penser que, au fond, personne n'a rien à perdre, ni le pape, ni Pérez, ni Abu Abbas en acceptant ce défi, mais que derrière, finalement, les diplomaties, les enjeux, les tensions, les intérêts bloqueront une nouvelle fois les choses. Mais je discutais hier avec quelqu'un qui me disait, vous savez, ici, un souffle peut provoquer la guerre, un souffle peut inspirer la paix. Et je crois que cette initiative à suivre donc peut être ce petit supplément d'âme qui va permettre de débloquer les choses, parce que les gens commencent à en avoir assez de cette guerre, de cette tension permanente, de ces murs. Et le voyage arrive à un moment finalement où tout le monde, ou plutôt personne, n'y croit, où les gens n'y croient plus. Et le pape, un peu ingénu, dit, mais si on parlait ensemble, mais autrement, différemment, une autre voie de la diplomatie. Ce n'est pas de la diplomatie pure et dure, ce n'est pas forcément la diplomatie du Vatican telle que nous la connaissions, faite de prudence, de componction, d'équilibre, de grande politesse, toujours à sa place. Là, on a quelqu'un qui va sur le champ, qui dérange, il dérange, tout en étant extrêmement humain, sympathique. Et là, il touche, et les gens se disent, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de trahir au fond notre idéal humain ou spirituel, chacun dans sa religion, en l'occurrence l'islam ou le judaïsme, est-ce qu'on n'est pas en train de trahir l'idéal même de nos États et le futur des générations? Est-ce qu'il n'est pas temps d'avancer? Ce qui est curieux, c'est que quand Jean-Paul II est venu ici en l'an 2000, c'était un magnifique pèlerinage, c'était l'année jubilaire, et puis après, ça a été la catastrophe, la deuxième intifada, et on est reparti pour des années de guerre, et la construction du fameux mur dit de sécurité, dit de séparation, ou dit de la honte, selon. Et puis, nous sommes donc 14 ans plus tard, il y a eu la visite de Benoît XVI en 2009, qui était à la Benoît XVI, quelque chose de texte magnifique, une visite, je dirais, presque théologique, assez peu politique, et là, ce pape nouveau arrive et lance un appel autorisé, puisque après tout c'est le pape premier des catholiques chrétiens en Terre Sainte, sur le lieu même de la vie du Christ. Et c'est là, avec son souffle nouveau, son langage nouveau, sa vision de latino-américain, réveille tout le monde. Il réveille. Au fond, ce voyage a peut-être réveillé la Terre Sainte d'une certaine habitude et d'une certaine désespérance face à une sorte de fatalité de la guerre. Lui dit non, il n'y a pas de fatalité de la guerre et du conflit. Avançons, luttons contre les discriminations. Les derniers discours là d'aujourd'hui, lundi, sont très très forts. toute discrimination religieuse ou raciale est à exclure. Et tout ça, ça fait mouche, ça porte, ça fait réfléchir, en tout cas, même les plus endurcis.
Un voyage est fait aussi de gestes, parfois inattendus, en tout cas pas prévus. Il y en a eu plusieurs. Le pape qui s'arrête justement au pied de ce mur de la honte, de séparation, de sécurité. Le pape qui embrasse ses deux amis en face du mur occidental, ses deux amis, un rabbin et un professeur musulman. Ce sont aussi des images dans une société de l'image qui resteront. Déjà sur les réseaux sociaux circulent les deux images du pape devant les deux murs.
Oui, j'étais très frappé, peut-être plus encore, par l'image du pape avec ses deux amis, le juif et le musulman, s'embrassant, trois hommes qui se tiennent les épaules, qui se soutiennent, qui s'épaulent devant ce mur, symbole quand même de cette religion qui est mère, matrice du christianisme, et puis par éclectisme ensuite de l'islam. Et il est là devant ce mur avec ces trois hommes. Et ce sont des hommes, c'est ça qui est très frappant. Ce sont des hommes, ce sont des amis, ils se soutiennent. Alors on va dire, bah, c'est bien gentil, ça n'est qu'une image. Mais non, je crois que ça va beaucoup plus loin. Parce que c'est peut-être aussi une autre façon d'envisager les choses. Nous sommes justement dans une société qui se pose énormément de questions. Il suffit se référer aux résultats des récentes élections européennes. C'était déboussolé. Lui, parce qu'il est justement non-européen, porte ce charisme de l'homme, ce charisme du cœur, ce charisme de l'amitié, et démontre que l'on peut être ami, proche, construire, bâtir justement des portes dans les murs, en l'occurrence, avec des juifs et des musulmans. C'est une formidable démonstration. Donc ce geste-là, moi personnellement, m'a plus frappé que le geste de la journée de dimanche où le pape effectivement s'arrête devant le mur côté palestinien. Il l'aurait pas fait, tout le monde se serait dit, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Je crois que c'était un peu attendu, c'était quand même relativement préparé, même si ça avait l'allure d'une surprise. C'était une très belle image évidemment, mais elle était tellement attendue celle-là que on se serait étonné qu'elle n'existe pas. Alors que l'image de François avec le rabbin Abraham Skorka et son ami musulman, voilà une image tout à fait, j'irais presque, elle est presque scandaleuse. Et je pense qu'elle va être scandaleuse pour un certain nombre de juifs, elle va être scandaleuse pour un certain nombre de chrétiens, elle va être scandaleuse pour un certain nombre de musulmans, mais elle est peut-être prophétique. Pour moi, c'est vraiment l'image qui restera de ce voyage, de ce pèlerinage, de ces 3 jours. Et en 3 jours, je rebâtirai le temple, c'est une parole d'évangile du Christ. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Mais non, tu es fou. 3 jours, il a fallu 70 ans ou 40 ans, je ne sais plus le chiffre. Et en 3 jours, alors ces 3 hommes, en 3 jours, peut-être bâtiront une paix malade. Ils ont trouvé peut-être l'antidote qui est celle du cœur.
Alors ce voyage avait un but œcuménique, c'était un pèlerinage œcuménique. La partie œcuménique donc était moins surprenante, je dirais. Elle était quand même très belle entre ces deux hommes, Bartholomée et le pape, qui ont une grande complicité, je dirais. On a vu des gestes là aussi, les deux hommes s'aidant à descendre l'estrade après l'accolade. C'était moins surprenant, mais toute cette cérémonie de cette prière œcuménique qui n'avait pas d'antécédent a été menée, je dirais, de très belle manière.
Oui, mais je trouve que pour l'orthodoxie en l'occurrence, il y a le problème du patriarcat de Moscou qui n'est pas un problème en soi, qui est une réalité. C'est-à-dire le patriarche de Constantinople, Bartholomée, c'est le premier dans l'orthodoxie. Mais il faudrait aussi qu'il y ait le patriarche de Moscou, il faudrait qu'il soit là également. Donc c'est vrai qu'il y avait la commémoration du geste de Paul VI avec Athénagoras, en ce lieu, le Saint-Sépulcre. C'est vrai qu'ils sont allés plus loin avec cette déclaration commune, avec cette prière sur le lieu même. On les voit s'agenouiller ensemble, c'était très très fort. Mais là, encore une fois, un peu comme tout à l'heure sur la question plus géopolitique ou interreligieuse, je pense que l'œcuménisme, on le sent encore, mais des montagnes à déplacer. Personnellement, je n'ai pas été très convaincu par cette cérémonie parce qu'elle était encore très empesée. Elle est justement encore trop empesée. Elle était très bien préparée. Je ne critique pas évidemment les gens qui travaillent sur ces domaines-là, mais elle était très liturgique, très codifiée. Alors qu'il aurait fallu peut-être aussi montrer que deux hommes, deux chrétiens, et surtout des chrétiens, puisqu'ils sont de la même famille spirituelle, et une plus grande liberté. Ils l'ont sans doute intérieurement, puisqu'ils ont discuté longuement entre eux, mais ce que l'on en a vu, ce qui a été montré, donner quand même une image de deux personnes côte à côte qui veulent vraiment avancer mais qui restent côte à côte. Bien sûr, ils se sont embrassés, bien sûr, ils ont posé un pas nouveau. Ils ont posé, oui, un nouveau pas pour avancer, mais voilà encore un chantier qui peut-être justement doit emprunter la voie du cœur dont on parlait tout à l'heure pour la géopolitique. Cette voie inattendue, nouvelle, dérangeante. On ne l'a pas encore mise en œuvre, je crois, pour ce qui est de l'œcuménisme, donc l'unité des chrétiens.